Non, non, pas en Kamazour, le puits envolé.
Ah, le puits envolé, alors vas-y.
Non, mais je ne sais pas grand-chose.
Il faut les motiver.
Donc oui, il y a Saint-Georges avec Saint-Franc qui sont partis justement avec le bâton de Saint-Pierre. Et Saint-Georges est décédé à Rive.
Non, non, ils ne sont pas partis avec le bâton de Saint-Pierre, ils sont partis sans le bâton de Saint-Pierre. Justement.
Ah oui, et il est
dans la cathédrale.
Vous voyez, j'ai besoin de vous.
C'est vrai.
Ce sera mieux là. Là, on enlève. Je m'en vais avec
le bâton. Jésus est apparu au bord du lac de Galilée avec 153 poissons. Hein, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Saint Jean. Et il a dit à Pierre ce jour-là, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oui. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Trois fois. Et Jésus avait un bâton à la main. Et il a dit, il a pris le bâton, il a donné entre les, il a mis dans les mains de Pierre, et il lui a dit, paix mes agneaux. Et ce bâton qui était dans les mains de Jésus, c'était le bâton qui était dans les mains de Melchisédek 4000 ans avant, lorsqu'il est allé visiter Abraham et qu'il lui a donné à communier au pain eucharistique et à la coupe, ainsi que vous le lirez dans le livre de la Torah. Et donc ce bâton de Melchisédek a été remis à Abraham. Abraham l'a remis à Jacob. Ce bâton a été donc dans les mains de Isaac, puis de Jacob. C'est le bâton du grand prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédek, c'est un ange, hein, c'est un ange glorieux ayant visage humain, qui n'a ni origine ni fin, comme vous le lisez, et que vous savez par cœur dans l'Épître aux Hébreux. Ce qui s'est passé, c'est que Jacob a été nommé Israël, et ce bâton, donc, était entre ses mains pour engendré à partir, il représente bien sûr la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, ce bâton, et il engendre 12 tribus pour Israël. Et il avait évidemment de Rachel eu deux enfants, le premier Joseph et l'autre Benjamin. Et le cœur de Saint de Jacob, c'était collé à Benjamin. C'était son préféré. Joseph lui a été vendu comme esclave par ses frères en Égypte. Il est devenu le quasi-pharaon d'Égypte. Et puis finalement, toutes les tribus d'Israël sont, comme vous le savez, rentrées en Égypte pour éviter la famine. Et puis Joseph a fini par mourir. Et on a mis ce bâton, qui évidemment avait été mis entre les mains de Joseph, avec la tunique sans couture, dans un tombeau. Et ce tombeau, on a mis le bâton de Melchisédek, d'Abraham et de Jacob. Il a fait promettre, avant de mourir, qu'au jour du retour sur la terre promise, on emporterait son corps et son tombeau sur la terre promise. C'est ce qui a été fait par Moïse. Et donc c'est Moïse qui s'est retrouvé, et donc l'Arche d'Alliance a été construite, et sa longueur, exacte est de 123 cm, parce que 123, donc, c'est la longueur du bâton de Moïse. C'est d'ailleurs avec ce bâton que Moïse a écarté les eaux de la mer Rouge. C'est avec ce bâton qu'il a ouvert le rocher pour faire jaillir les eaux dans le désert. Vous étiez au courant de tout ça? Non, vous ne saviez pas. Bon, ben on peut vous acheter une Bible si vous voulez. Et puis donc ils sont... Hein? Non, tu peux. Si tu as des précisions, tu peux. Non, mais évidemment, non, mais je ne sais pas tout, vous savez. Complétez, c'est ça, sinon vous complétez. Et donc, non, mais c'est vrai. Et là, donc Moïse donc, s'est retrouvé avec ce bâton. Il a ouvert, puis ils sont rentrés. Il a remis le bâton à Jésus, Yehoshua. Et Jésus, Yehoshua, a ouvert le Jourdain pour passer en terre promise. Ce bâton a été remis par Yehoshua dans le la caisse, enfin, on ne devrait pas dire comme ça, dans l'Arche d'Alliance. Il est remis avec quelques éléments de pierre où le Christ avait brûlé lettre après lettre les 10 commandements de Dieu. Et enfin, il y avait dans cette Arche d'Alliance les choses de Dieu, dont le bâton d'Abraham et de Melchisédek. Puis ce bâton, l'Immaculée Conception ayant habité pendant 9 ans dans le temple de Jérusalem, on a lu hier un passage de Marthe Robin où on voyait que le lieu où habitait Shimeon Hanashi, qui est le dernier Nashi d'Israël, celui qui avait présidé à la formation de la Vierge, qui savait très bien que c'était elle, la Vierge d'Israël. Ils savaient en plus tous très 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 bien la date. Donc ils avaient très bien compris que c'était Marie qui était la Vierge d'Israël, prophétisée dans le prophète Isaïe, ce que nous chantons à chaque fois que nous disions « Alma, Redemptoris Mater, que via chéri porta manet. » Ce chant que vous connaissez évidemment par cœur. Soukoure kadati, surgere qui courat populo. Si vous ne connaissez pas ce chant par cœur, vous n'êtes pas habilité au prochain synode. Alma, ça veut dire la Vierge à l'état pur. Donc voilà, donc pendant 9 ans, de l'âge de 3 ans et demi jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, Shimon Hanashi, connaissant tout ce qui se passait en Israël, et connaissant toutes les descendances davidiques, savait qu'il y avait, disons, 3 à 4 hommes en Israël qui étaient de la descendance de David et pouvaient devenir l'époux de la Vierge. Donc il a sorti de l'Arche d'Alliance le bâton de Moïse. Puis, il a eu une cérémonie, si je puis dire, et il a remis le bâton entre les mains des différents descendants de David, là, dans le temple, tout près de l'autel de l'encens. Et le bâton de Moïse, dès qu'il a été mis entre les mains de Saint-Joseph, avait fleuri. Une, deux, trois lys. D'ailleurs, on les utilise, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans la prière d'autorité. C'est entre nos mains, pour l'ouverture des temps, pour les éléments, et pour faire avancer la nature humaine tout entière vers son accomplissement. C'est entre nos mains. Bref, du coup, Saint-Joseph s'est trouvé tout bête, parce qu'il dit, mais attends, non. Si taisez-vous. Mais lui, il a dit, Saint-Joseph, il a répondu à Simon Hanashi, pas maintenant. Enfin, bref, finalement, il y a eu des discussions, et pour éviter qu'il y ait davantage de morts, finalement, il a accepté le mariage. Donc, mais le bâton, donc, est devenu le bâton de Joseph. Et c'est avec ce bâton qu'il est allé, donc, de Nazareth à Bethléem, puis de Bethléem en Égypte, puis d'Égypte, j'ai appelé mon fils à Nazareth. Voilà. Et le bâton s'est retrouvé donc finalement, comme cela a été marqué dans les Écritures, entre les mains de Jésus. Donc, voici qu'après sa résurrection, Jésus est avec ce bâton. Et il dit à Saint-Pierre, « Mais pourquoi vous ne nous l'avez pas raconté tout ça ?» Et il dit à Saint-Pierre, « Paix, mes agneaux !» Et il lui donne ce bâton. Donc Saint-Pierre se dit, « Mais tiens, oui, mais Jean, là, il n'a pas le bâton, il va faire quoi, lui ?»« Oh, lui, c'est à mon retour, hein. C'est à mon retour qu'on en reparle. Alors à toi, tu prends le bâton, et pas à pas, c'est moi qui, avec toi, vais régner sur la terre tout entière. » Alors voilà, donc voilà que du coup, il prend le bateau, il quitte Jérusalem, et puis il traverse la Méditerranée, il arrive sur le bas de la botte de l'Italie, à Manduria. Il passe du bateau à la rive avec le bâton. Et de là, il va à Rome. Et il sait qu'il y a une nation qui doit produire son fruit à toutes les grâces et tous les actes de Dieu et de la création et de la rédemption. Etc. Il n'y a qu'une seule nation, il y a une nation qui est désignée pour faire produire son fruit à toutes les grâces de Dieu du ciel dans la terre. Alors il se dit, mais... Ah, à un moment donné, il se dit, avant qu'on ne le crucifie, il se dit, bon, on va quand même choisir parmi les 72 disciples deux qui puissent aller dans cette nation, deux par deux toujours, hein, pour... baptiser, enfin pour donner, pour chasser les démons. Pour... Et du coup, il choisit Georges et Saint-Front. Et il leur dit, allez. Et le choix qui a été fait, ça a été évidemment le puits en Valais. Tout ça, pourquoi? Parce que la Vierge s'était manifestée là. C'était un lieu religieux, un petit peu comme à Éphèse, à Astarté, un petit peu comme ça. Donc c'était un lieu religieux et prédisposé à recevoir des choses qui relèvent à Rome aussi, hein, avec toutes ces...
Mais est-ce que vous savez pourquoi? Quel est le signe qui lui a montré que c'était cette direction-là? Ça y a très peu de gens.
Eh bien, je sens qu'on va bientôt le savoir. Ah, enfin, quelqu'un qui a compris ce que c'est qu'un synode. Allez, vas-y.
Alors, je vous ai parlé du moment très important de l'ascension. On sait où a eu lieu l'ascension. Et au lieu où il y a eu l'ascension, il y a un pied qui est marqué dans la roche.
Oh, ça oui.
Ce pied marqué dans la roche montre une direction. Cette direction, c'est une ligne parfaite qui passe par Béthanie et puis la France. Et ça ne touche pas d'autres pays.
Non.
Ça va directement en France.
Direct.
Donc le premier pays qui touche cette direction, c'est la France. Et donc c'est toujours le mystère de l'ascension, où il y a cette demande de baptême, baptisez-les tous. Et donc là, on retrouve la vocation profonde de la France.
Et donc, Saint-Front et Saint-Georges se précipitent hors de Rome et vont directement sur le Puy-en-Velay. Puis arrivés à la frontière, une fièvre incompréhensible tombe sur Saint-Georges. Il s'évanouit, il meurt. Et Saint-Front se dit, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? C'est pas possible. Une seule chose est possible pour l'instant, parce que il fait un trou et on l'enterre. On enterre Saint-Georges. Puis vite, il retourne à Rome et il va voir Simeon Kefa. Et lui dit, notre truc a foiré, là, il est mort. Comment ça, notre truc a foiré? Ça va pas, non? Si, ça a foiré. Alors, il lui a donné un grand coup comme ça. Ah, arrête! Taisez-vous! Ben, si, ça a foiré. Pas maintenant! Et il a saisi le bâton pour le taper. Ah, il dit finalement, je vais pas le taper. Il dit, prenez le bâton. Et du coup, Saint-Fron a pris le bâton de Melchisedec. Il dit, et Saint-Pierre lui dit, ben allez, et puis déterrez Saint-Georges et ressuscitez-le, et puis c'est tout, c'est marre.
C'est simple, quoi, il n'y a pas de problème. Voilà.
Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, Saint-Fron donc va là-bas, arrive à la frontière. On déterre Saint-Georges, et avec le bâton, il ressuscite Saint-Georges d'entre les morts. Alors du coup, tous les deux se retrouvent pour pouvoir aller ensemble au Puy-en-Velay. Et c'est ainsi que a été établie la succession apostolique primordiale, qui a donné du coup aux trois autres qui étaient venus par la Méditerranée, de quoi faire les cinq bases apostoliques du M de Marie sur la France. Et ce qui s'est passé, c'est que ce bâton, quoi? C'est si dit, dites, hein?
Je me demandais si ça allait aller cet après-midi, et là, elle va. C'est bien d'avoir sa vue à elle aussi, de Saint-Irénée.
Ah, mais de toute façon, on va...
Comme ça, synode.
Ah, mais c'est synode, pas de problème, on va...
Il y a un temps pour tout continuer, c'est elle qui parle.
On raconte quand même, parce que dans Saint-Irénée, Saint-Irénée dit explicitement le roi, le grand monarque. Je ne sais pas si on va vous trouver le passage, mais vous l'avez sans doute déterré.
34-4.
Hein?
34-4. Chapitre 34.
Chapitre 34, ligne 4. Donc c'est lié à Saint-Irénée, sinon on n'en parlerait pas. Si ce n'était pas lié, c'est la journée Saint-Irénée aujourd'hui. Et donc, le bâton donc, s'est trouvé donc au Puy-en-Velay. Pendant la, juste avant la Révolution, une arrière-petite-fille, une descendante de Charles Martel, qui a frappé avec un marteau sur la tête des hérétiques. Dès qu'il voyait un hérétique, il prenait le marteau et il faisait exploser la tête. Et du coup, eh ben, une de ses descendantes, qui s'appelle Marie Martel, était là, au Puy-en-Velay. Elle faisait des broderies. Elle faisait des broderies, des broderies, des broderies, des broderies. Et donc, vers 1740, 1700, quelque chose comme ça, 1750, et on sentait les prophéties, tout ce que vous voulez, c'est une mystique aussi. Il va y avoir un renversement total et la France va être complètement entre les mains de Lucifer pendant 235 ans. Alors du coup, pour mettre à l'abri le bâton, on a confié le bâton à Marie Martel. Pour qu'elle le cache, personne ne pouvait imaginer que le bâton était au milieu des broderies de Marie Martel. Donc c'est la fondatrice, elle, des sœurs de...
C'est les Béates.
Des Béates.
Les Béates, mais...
La fondatrice des Béates. C'est ça. C'est les Béates. Mais figurez-vous que, en attendant, aussitôt, après la mort de Saint-Fron et de Saint-Georges, on a bâti une église, la première église du département ici, de la région, c'était à Saint-Paulien. Et cette église de Saint-Paulien était bâtie pour la vénération, c'était l'endroit le plus important, disons, plus important que Puy-en-Velay. Et c'est pour ça que vous verrez, si vous passez là-bas un jour, vous verrez dans les vitraux toutes ces histoires du bâton de Moïse. D'ailleurs, quand Roncalli, nonce apostolique de Paris, est venu visiter le Puy-en-Velay, comme il a visité Akaka et toutes les zones, il n'a été intéressé par une seule chose au Puy-en-Velay, c'est d'aller à Saint-Paulien pour vénérer l'endroit où le bâton de Moïse et de Saint-Pierre et de Saint-Georges avait été vénéré. Parce que lui, et à Rome, on sait très bien ce que c'est que cette histoire du bâton.
Et c'est Paul VI.
Pardon ?
C'est quel ?
Jean XXIII.
Roncalli, c'est celui qui est devenu ensuite le pape Jean XXIII. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, donc, Saint-Georges et Saint-Front, ça se retrouvait avec ce bâton. Mais Saint-Front avait été envoyé par Saint-Pierre pour aller sur le sud-ouest. Je crois que c'est Angoulême. Et il a dit, ce bâton est à moi. Saint-Georges lui a dit, non, il est à moi. Vous connaissez l'histoire du Père Jean et du Père Emmanuel, avec la pomme. Et donc, Saint-Front a dit, non, il est à moi. Du coup, Saint-Georges a dit, non, il est à moi. Du coup, ce bâton est extraordinaire, je peux vous le dire. Il est noir, il est fabriqué avec un arbre qui existait dans le paradis terrestre. Il est dur comme du fer. C'est plus dur que... Vous savez, les aciers les plus durs qui puissent exister. Il est immortel, quelque part. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'Apocalypse que le grand monarque régnera sur toutes les nations avec un sceptre de fer. Puis, donc, ils se sont dit, bon, j'avoue que je ne sais pas comment ils ont pu faire, mais du coup, Saint-Front est parti sur Angoulême. Je sais pas, ils ont coupé le bâton. Un tiers est parti avec Saint-Front. Et les deux tiers sont restés ici, puis en volé. Comme ça, à peu près. Hein.
80-40.
Ce bâton là-bas à Angoulême a circulé, puisqu'il est allé après jusqu'au Frankenbourg. Là-bas, d'ailleurs, ce bâton a ressuscité des morts un évêque. Mais on en a perdu la trace aujourd'hui. Mais on n'a pas perdu la trace de celui qui était gardé au Puy-en-Velay. Voilà. Et tout ça pour vous dire que... C'est un truc complètement inouï, quoi, de savoir que le bâton est là. Il est à une demi-heure d'ici. Et Sœur Sainte-Sylvie est une très grande copine de la dernière survivante des Béates de Marie Martel, qui lui a dit la dernière fois qu'elle l'a vue, la prochaine fois, venez donc avec vos enfants.
Maman. T'as des grands enfants, hein?
Venez donc avec vos enfants.
Les petits et les grands, j'ai demandé de les éveiller à la fois jusqu'au plus grand. C'est nous les grands.
C'est vrai, hein? Alors, moi, j'en dis pas plus, mais je trouve que c'est drôlement bien. Parce que quand vous allez au Puy-en-Velay, vous avez la cathédrale, vous descendez 200 mètres, vous rentrez dans un bâtiment, et Sœur René, 93 ans, 14 ans, vous accueille, vous fait monter un escalier et vous fait rentrer dans un musée qu'on appelle le musée Marie Martel. Et là, vous voyez une Vierge noire qui est l'identique de celle qui se trouve dans la cathédrale. Vous avez une Vierge noire, et cette Vierge noire est là, et c'est une Vierge noire qui pleure des larmes. On voit bien les traces des larmes, d'ailleurs. Puis, il y a toutes sortes de reliques. C'est essentiellement des centaines et des centaines et des centaines de...
Broderies.
Et puis, il y a au milieu des broderies, dans un truc là, avec des broderies, il y a un bâton. Et il est là. Il y a très peu de gens qui ont le droit de le regarder, de le voir.
Elle a acheté deux vitrines maintenant pour mettre les broderies, les petites photos, les petits textes.
Voilà. Alors, je dis ça parce que, si vous voulez, j'ai pensé que ce serait peut-être bien. On est quel jour là? Ou alors on peut le faire demain, enfin, peu importe, samedi. Ça peut être pour samedi, parce que ça ce serait très bien. Samedi à 3h, par exemple, pour terminer le synode, on peut aller là-bas. C'est ça que René va nous accueillir. Et on va voir le sceptre de fer. Si vous voulez. Si vous voulez pas, faites votre pèlerinage ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux le voir. Moi, je veux le voir. Parce que le bâton, c'est fait pour quoi? C'est fait pour faire une pèlerinage. C'est fait pour marcher à pied, hein, c'est ça. Et faire le pèlerinage. Hein. Voilà. Bon, et maintenant.
Alors, il manque un bout.
80. Ah, alors ça, on compte. On compte sur toi pour faire une recherche et trouver le bout. Parce que lorsque. Le grand monarque, c'est sûr.
L'intuition de dire qu'il est resté à Frankenbourg.
Non, le père a dit on l'a perdu depuis
Frankenbourg. Mais il a pas resté là.
On a perdu la trace. On a une trace parce que on sait qu'il a ce bout de bâton a ressuscité un évêque d'entre les morts là-bas. Mais on a perdu la trace. Et récemment, très récemment, on est venu embêter la Sainte-Famille en disant écoutez.
On a perdu notre bout de bâton, partagez le vôtre. Oh.
Recoupez-le une deuxième fois en deux. Non, ça ne va pas, non?
Elle
n'a
pas.
Non,
elle a raison.
Non, il est tout simplement.
Il est là où il doit être.
Probablement.
Voilà. Et toi, peut-être, tu vas t'inviter à la Cour Céleste, on va le dérouler.
Non, mais c'est Frankenbourg. C'est pas pour rien que Frankenbourg doit devenir un lieu de pèlerinage plus important que Lourdes.
Ah bon?
C'est là où il y a eu le plus d'apparitions, hein, le lieu d'apparition où il y en a eu le plus pendant presque 100 ans. Il y a une source, il y a tout à Frankenbourg. Frankenbourg, c'est le.
Donc, il y a un château. En dessous du Mont Saint-Odile.
Et c'est là où Clovis a décidé de devenir chrétien. Dans le château de Frankenbourg, qui est toujours en ruine, qui est là, qu'il décide de devenir chrétien, qui décide d'être baptisé. Et c'est fondamental.
Alors, est-ce que vous êtes. On peut faire un conclave pour dire oui, certains.
Oui!
Vous pouvez téléphoner à Sœur René pour nous obtenir de quoi voir après, samedi après-midi, avant la dispersion.
Oui, il faut tout.
On dira aussi qu'on est
un. Vous êtes, qui est-ce qui n'est pas d'accord? Qui est-ce qui n'est pas d'accord?
Non.
Toi, Serge n'est pas d'accord. Bon,
non.
Bon. très bien. Alors maintenant, écoutez, voilà. C'était juste, je pensais que ce serait bien de vous dire ça. Parce que là, maintenant, on va vous laisser maintenant la parole. On dégage tout ça. On fait la vaisselle. Et on passe au synode sur Sainte Irénée, si vous voulez bien.